Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sarr.
Le pape François rencontre les familles du chemin néo-catéchuménal au Vatican, parties en mission à travers le monde. L'occasion de rappeler ce qu'est le charisme de ce mouvement dynamique de l'Église. Nous entendrons le témoignage d'un couple d'Italiens en mission en France depuis plus de 20 ans. C'est un appel qui résonne encore à nos oreilles et qui conserve toute sa force, celui que lança en France l'abbé Pierre en plein hiver 54, l'un des plus rigoureux du siècle dernier. Nous y reviendrons avec le père Viennet, qui a longtemps côtoyé le fondateur de la communauté d'Emmaüs. Le livre pour Dieu cette semaine est un dictionnaire sur le Vatican et le Saint-Siège depuis 1870. Nous entendrons son directeur, Christophe Dickès, s'entretenir avec Catherine Aubin. Et puis, ne manquez pas surtout le commentaire de l'évangile de ce dimanche avec le père Pascal Montavite. C'est à suivre à la fin de ce magazine. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. C'est un des mouvements les plus dynamiques de l'Église en Europe, le chemin néo-catéchuménal. Et il a pu montrer sa vitalité ce samedi midi dans la salle Paul VI au Vatican. 8000 de ses membres ont été reçus en effet par le pape François. En tout, 414 familles envoyées en mission dans plusieurs villes du monde entier, selon le modèle de la communauté. Des familles considérées comme de petites cellules évangélisatrices. Ce samedi, les familles, les prêtres et les religieux du chemin néo-catéchuménal ont donc pu témoigner de leur mission au pape, qui en retour a rappelé le charisme de ce mouvement d'église dont les statuts ont été reconnus par Benoît XVI en 2008. Retour sur ce discours du pape avec Olivier Bonnel.
L'Église vous remercie pour votre générosité, a lancé le pape dans la salle Paul VI. Je vous remercie pour tout ce que vous faites dans l'Église et dans le monde. François qui a fait part de quelques recommandations aux membres du chemin néo-catéchuménal. D'abord, une invitation à conserver la communion à l'intérieur des églises particulières auprès desquelles le mouvement est engagé. Le chemin, a rappelé le pape, a son propre charisme, sa propre dynamique et comme les dons de l'esprit, une profonde dimension ecclésiale. Il est donc important de se mettre à l'écoute des églises locales et de leurs pasteurs, a souligné le Saint-Père, à en valoriser les richesses et à cheminer ensemble. Une communion, a-t-il insisté, qui est essentielle. Où que vous alliez, il est important de se rappeler que l'Esprit de Dieu nous précède, a poursuivi François. Le Seigneur sème les graines de son Verbe, même dans les endroits les plus reculés et les cultures les plus diverses. Le pape a invité ainsi les familles en particulier à rester attentives aux contextes culturels et sociaux dans lesquels elles sont plongées, à s'en imprégner, en particulier en apprenant la langue des pays dans lesquels elles sont envoyées. Le pape a enfin exhorté le chemin néo-catéchuménal à prendre soin avec amour les uns des autres, en particulier les plus faibles. Le mouvement est un itinéraire de découverte du baptême, un chemin exigeant le long duquel un frère ou une sœur peuvent trouver des difficultés imprévues, a-t-il précisé, un chemin qui requiert ainsi patience et miséricorde. Porter l'évangile dans les endroits les plus déchristianisés, a conclu le souverain pontife, évangéliser avec amour, et dites à ceux que vous rencontrez que Dieu aime l'homme comme il est, avec ses limites, ses erreurs et ses péchés, soyez surtout témoins de l'infinie bonté et de la miséricorde inépuisable de Dieu.
Olivier Bonnel, qui a rencontré à l'issue de la rencontre un couple d'Italiens, membres du chemin néo-catéchuménal. Ils vivent en France avec leurs 7 enfants. Ils ont été envoyés en mission il y a 23 ans, d'abord en Alsace, puis à Avignon, dans le sud de la France. Ils se sont sentis touchés par les paroles du pape.
La chose que j'ai retenue, c'est la grande générosité qu'il y a, qui suscite l'Esprit Saint dans toutes les familles. Je me suis revu, moi, à l'époque, quand je suis parti. J'ai reçu l'envoi de Jean-Paul II. À l'époque, c'était un envoi personnel. On a reçu, nous, la croix, c'était le 91. Et donc, voilà, j'ai revu un peu tout ça. Je suis plein de reconnaissance envers l'Esprit Saint.
Le pape a insisté aussi sur l'inculturation, ça c'est une dimension importante du mouvement, du chemin néo-catéchuménal, c'est-à-dire vraiment s'imprégner de la culture, des églises locales, des villes dans lesquelles ces petites cellules sont implantées. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette inculturation, en quoi c'est important?
Disons pour moi, c'est sûr que quand je suis arrivée en France, je me suis inculturée. Mes enfants sont allés à l'école française, ils ont appris tout de suite le français et la façon de vivre. Il ne faut pas aller en mission avec un jugement envers les peuples où on va. Par contre, il faut avoir beaucoup d'amour et comprendre qu'ils sont différents de nous.
Je vais ajouter à ce que dit ma femme une chose, ça passe par le cœur. Aujourd'hui, je peux dire que moi, je considère la France comme vraiment ma deuxième patrie, mais véritablement une patrie d'élection dans laquelle je me suis très bien intégré et j'ai commencé à apprécier vraiment de plus en plus Mais ça passe par le cœur. C'est pas, on peut pas faire avec la tête l'intelligence. Je parle justement avec les Français parce qu'ils sont, on est tous un peu cartésiens, mais ça passe par le cœur. Et quand ça passe par le cœur, la langue rentre facilement, petit à petit, et on commence à apprécier vraiment la beauté. Comme a dit les papes, ça m'a beaucoup frappé que dans chaque peuple, il y a une histoire qui est faite. Pour moi, la mission, ça a été quelque chose qui a sauvé ma vie.
Et vous êtes depuis longtemps en France, vous avez dit. Et aujourd'hui, est-ce que la mission a changé?
Ben oui, a changé dans la mesure que nous, on a changé nous aussi, évidemment. Le défi, c'est toujours la conversion, ma conversion, d'accepter les lieux où le Seigneur m'envoie et d'aimer les autres tels qu'ils sont. Mais je partage exactement ce qu'a dit le pape. Mais je le dis vraiment sincèrement. Là, ça, c'est la mission qui ne change pas. Si quelqu'un reste chez lui, c'est la mission, je dirais, de chaque baptisé. Accepter que l'autre est différent. J'ai beaucoup, quand il parle des périphéries, parce qu'il faut vraiment toucher l'homme où il se trouve. Et en plus, entre nous, hein, c'est le Seigneur qui fait tout le boulot. Hein. Si nous, on est des serviteurs inutiles et parfois nuisibles dans la volonté de Dieu.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Il y a 60 ans, jour pour jour, l'abbé Pierre appelait les Français à venir en aide aux sans-abri, alors qu'un bébé de quelques mois et une femme venaient de mourir dans la rue. Cet appel a radicalement changé la vie de l'abbé Pierre, faisant de lui le porte-parole emblématique de la lutte contre la misère. Cette nouvelle notoriété, le tsunami de générosité qu'il a provoqué, vont mobiliser toutes ses forces. Mais pour le père Jean-Marie Viennet, secrétaire général d'Emmaüs International pendant 20 ans, confident et confesseur de l'abbé Pierre, la force de sa vie n'a pas été son engagement social, mais son expérience de l'adoration de l'Eucharistie et du service des plus faibles.
La force de sa vie n'a pas été son engagement social, mais son expérience de l'adoration de l'Eucharistie et du service des plus faibles. Et ça, c'est à mon avis l'essentiel, parce que souvent on a raconté ce qu'il faisait, mais j'ai toujours peiné qu'on ne dise pas assez qu'est-ce qui l'a amené à faire cela. Or, c'est fondamentalement l'expérience de l'adoration, de cette rencontre qu'il a fait à 15 ans, une expérience mystique qu'il a fait d'ailleurs toute sa vie, qui a été de rencontrer, comme il a dit, Dieu comme Moïse au buisson ardent qui lui a dit « Je suis celui qui suis, j'ai vu la misère de mon peuple ».
Et en quoi sa spiritualité nous éclaire sur ensuite son action ?
On peut toujours dire « ben voilà, il y a des gens qui ouvrent les yeux sur les réalités concrètes de la vie », le malheur des autres, les gens sans logement et tout ça. Mais quand on reprend toute sa vie, sa spiritualité lui a toujours donné d'avoir le souci des plus souffrants. L'abbé Pierre, il faut se rappeler, il a vécu 94 ans, il a été avec des difficultés santé parfois très importantes jusqu'à sa mort, mais déjà pendant la guerre, son engagement de la résistance pour sauver des pères de famille juifs, toute sa vie, il a porté à avoir le souci des faibles et des petits. Et je le maintiens parce que je l'ai vécu avec lui, c'est que sans arrêt il était renvoyé à cette action par sa vie spirituelle d'adoration, de célébration de l'Eucharistie.
Et comment donc est-il passé de l'homme de réflexion à l'homme d'action ?
À mon avis, ça a été toujours quelque chose qui l'a habité. Mais ceux qui l'ont rencontré, avec qui il a partagé, le problème c'est que sa santé était toujours défaillante. Après son expérience d'Assise, il a voulu aller chez les Capucins, où il est resté plusieurs années. Et sur les conseils et l'accompagnement du père de Lubac, il s'est réinséré après ça parce qu'il ne tenait pas le choc dans cette vie de religieux. Il a été prêtre du diocèse de Grenoble. Eh bien, à travers ça, il s'est senti conduit, à travers l'expérience de la prière, à tout ça, à ne pas se dérober. Et c'est dans ce sens-là qu'il a conduit ce chemin.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Et à l'occasion de l'anniversaire de cet appel, le père Jean-Marie Viennet et René Poujol, journaliste au groupe Bayard, racontent dans le livre « Secrets spirituels de l'abbé Pierre » aux éditions Salvator, son expérience spirituelle. Alors que le Soudan du Sud est plongé dans la plus grave crise de toute sa jeune histoire, les évêques du Soudan et du Soudan du Sud, qui ont maintenu unis leur conférence épiscopale, appellent à la paix, à la réconciliation et à la promotion de la justice et de la vérité. Ils s'exprimaient au terme de leur session plénière extraordinaire qui s'est tenue à Djouba, la capitale sud-soudanaise, du 21 au 31 janvier dernier. Les évêques se disent choqués par la violence qui a eu lieu dans le pays et indiquent qu'ils ne peuvent pas garder le silence face à de tels événements. D'où l'appel à une réforme démocratique urgente, à une meilleure gouvernance, loin du népotisme, de la corruption et de la personnalisation de la politique. Les évêques critiquent par ailleurs le choix d'exclure les églises et les forces civiles des pourparlers de paix à Addis Abeba. Ils insistent également sur la nécessité de sanctionner les auteurs de crimes. Passons maintenant au livre pour Dieu qui, cette semaine, est un dictionnaire. Le dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège. 46 auteurs ont collaboré à cet ouvrage afin de couvrir 12 pontificats depuis 1870 et ce, sous différents aspects. Interrogé par Catherine Aubin, Christophe Dickès, qui a dirigé cet ouvrage, nous explique l'intention de ce dictionnaire, sa spécificité et ses limites.
Christophe Dickès, vous êtes le directeur, on peut dire, du dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège qui vient de sortir. C'est quoi ce dictionnaire? Pour qui? Pourquoi?
Personnellement, je m'intéressais beaucoup à l'histoire des relations internationales et je voulais parler de la politique étrangère du Vatican. Et lors d'une conversation avec Jean-Luc Barré, qui est le directeur de la collection bouquins chez Robert Laffont, il m'a demandé de diriger ce dictionnaire. Et l'esprit avec lequel je l'ai fait, c'est, si vous me permettez l'expression, c'était de faire de l'anti-Dan Brown. Je voulais montrer la réalité du Vatican, loin des fantasmes qui peuvent être véhiculés ici et là, que ce soit dans la presse, mais aussi dans les romans. Donc, le dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège est vraiment l'anti-Dan Brown, c'est la réalité du Vatican. Alors, c'est une réalité sans tabou, mais nous montrons également, bien évidemment, ce que ne montrent peut-être pas assez les médias, c'est-à-dire la grandeur de l'Église, de son action à travers le monde, soit diplomatiquement, soit sur le plan humanitaire.
Alors, justement, c'est ça qui est très étonnant dans ce dictionnaire, c'est qu'on y retrouve tous les pays pratiquement du monde. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur, par exemple, du Japon, de l'Allemagne? Qu'avez-vous dit?
Alors, c'est un dictionnaire historique, donc contemporain. L'histoire contemporaine de l'Église commence en 1870 avec la fin des États pontificaux jusqu'à la papauté de François. Il a été mis à jour jusqu'à la dernière minute, jusqu'au mois de septembre 2013. C'est un dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège. Et là, vous parlez de la partie du Saint-Siège. Le Saint-Siège, c'est le gouvernement de l'Église catholique qui est tourné vers le monde. Et donc, on n'a pas souhaité, par exemple, sur l'article France, sur l'article Allemagne, sur l'article Japon, parler des catholiques allemands, des catholiques japonais ou bien des catholiques français. Non, on a voulu parler de la diplomatie pontificale, des relations entre le Saint-Siège d'une part et l'État français, l'État japonais, etc. Et à côté de cela, il y a une partie liée au Vatican, en quelque sorte à la vie quotidienne au Vatican, de la vie de l'enfant de cœur jusqu'à la vie du secrétaire d'État qui est, après le pape, le personnage le plus important.
Alors c'est ça qui est étonnant dans votre dictionnaire, c'est quand on ouvre votre dictionnaire et quand on commence à le feuilleter, on a l'impression d'entrer dans un musée, dans quelque chose d'extrêmement construit et extrêmement bien nommé.
On a souhaité aussi aborder la place du Saint-Siège et de l'Église dans le XXe siècle. On a aussi étudié dans ce dictionnaire sa relation au monde, l'opinion publique et le Saint-Siège, les médias et le Saint-Siège. De mon point de vue, il manque très 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 peu d'articles. Il y a peut-être aujourd'hui un article qu'il manque, c'est la fameuse commission qui a été créée par le pape François, le fameux G8. Mais même la commission sur l'IOR et l'autre commission qui est chargée de faire l'audit interne sur l'administration du Vatican, eh bien, est dans le dictionnaire.
Qu'est-ce qui vous a poussé à l'intérieur pour l'écrire?
En fait, là, c'est le catholique qui parle et bien évidemment, quand on s'intéresse à l'Église, j'allais dire, on a un devoir de vérité, on s'attaque entre guillemets à une institution millénaire et bien évidemment, la foi a joué, mais aussi le devoir d'histoire. Et encore une fois, c'est un dictionnaire sans tabou, on parle de la mafia, on parle des questions de pédophilie parce que il nous a semblé important de faire un devoir de vérité, un devoir d'historien. Et je pense que ce dictionnaire se situe dans la lignée de la conception de l'histoire telle que la concevait à la fois un Léon XIII, un Pie XI, mais aussi encore récemment, il y a eu un discours sous le pontificat de Benoît XVI sur les historiens où l'Église n'a pas à avoir peur de son histoire. Et donc, cette histoire, nous la présentons de la manière la plus objective.
Christophe Dickès, qui a dirigé le dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège. Il était au micro de Catherine Aubin. C'est l'heure maintenant de retrouver le père Pascal Montavite qui nous propose son commentaire de l'évangile du dimanche 2 février. Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.
En ce dimanche, nous fêtons la présentation de Jésus au Temple. Marie a mis au monde un Fils par l'Esprit Saint qui est venu sur elle et par la puissance du Très-Haut qui l'a prise sous son ombre. Aujourd'hui, elle présente au Père des cieux le don qu'elle-même a reçu. Jésus vient du Père et par cet acte de Marie et de Joseph, Jésus retourne vers son Père. Lors de cet événement, Marie et Joseph rencontrent le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. Ils s'étonnent des paroles de Siméon. Voyons cela de plus près. Siméon est un homme juste et religieux. Il attend la consolation d'Israël et l'Esprit lui a révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Lorsqu'il voit Marie arriver avec l'enfant, sans hésitation, il le prend dans ses bras et bénit Dieu. Il pose donc des actes sacerdotaux. Mais l'évangéliste Luc ne dit pas que Siméon est prêtre. Ce qu'il est tout d'abord important de mettre en relief dans ce fait, c'est l'assurance avec laquelle Siméon agit et s'exprime. Une parole du Seigneur lui a été révélée et il n'a aucun doute à ce propos. Il sait reconnaître l'accomplissement de cette promesse divine dès qu'il voit l'enfant Jésus. Siméon est donc avant tout un exemple de foi. Il a su attendre la parole du Seigneur et attendre son accomplissement. De plus, il est précisé que Siméon fut poussé par l'Esprit Saint pour se rendre au Temple. Le terme grec, pour signifier la consolation que Siméon attend pour Israël, est « paraklésine », à savoir un mot de la même racine que celui qui est utilisé pour désigner l'Esprit Saint, selon l'évangéliste saint Jean. Mais le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Siméon est donc poussé à se rendre au Temple par celui-là même qui l'attend pour Israël. Siméon est un homme de foi, rempli d'Esprit Saint. Siméon bénit Dieu pour l'accomplissement de son plan de salut, un salut qui est pour les Juifs et les païens. Il peut maintenant aller en paix, il a vu le Sauveur. Plus étonnante est la prophétie qu'il adresse à Marie. « Vois, ton fils provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes de bien des cœurs. » Par ces paroles, Siméon annonce la maternité de Marie vis-à-vis de tous les croyants. Toute maternité est à la fois joie et douleur. Les souffrances de l'enfantement expriment bien cette dualité. Marie n'échappe pas à cette double réalité en tant que mère de l'Église. Marie est présente dans la vie des croyants, elle écoute et partage les souffrances de tous les cœurs qui se tournent vers elle afin de les conduire vers son Fils. Les doutes, révoltes, colères, incompréhensions qui peuvent habiter nos cœurs, nous pouvons les offrir à Marie. Par sa douceur maternelle, elle nous aidera à les mettre dans la lumière que Jésus apporte aux hommes. Cette prophétie de Siméon dévoile donc la mission de Marie dans notre monde. Lorsque les cœurs sont fermés, qu'ils se sont éloignés de Dieu au point de se déclarer autonomes vis-à-vis de leur Créateur, prions la Vierge Marie. Comme une mère, elle intercède pour que les hommes prennent conscience de leurs pensées qui leur sont ainsi dévoilées, afin qu'ils se convertissent et accueillent sa miséricorde.
Voilà, c'était le commentaire de l'évangile de ce dimanche 2 février. Vous pouvez évidemment le retrouver sur notre site internet ainsi que l'ensemble de nos interviews et de nos reportages. Notre adresse www.radiovaticana.va. C'est la fin de ce magazine, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.